à tous, vous allez bien? Je suis vraiment content de vous voir ce matin. Merci d'être venu à l'église pour qu'on puisse ensemble adorer notre Dieu. C'est tellement beau quand ensemble on peut louer Dieu, élever nos voix et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc merci d'être ici ce matin, c'est vraiment une joie, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Dominique King, je suis un des pasteurs à l'église ici, responsable de la jeunesse 12-17 entre autres. Donc, ce matin, je suis vraiment content qu'on puisse continuer ensemble notre série dans l'Évangile de Marc, Opération Sauvetage, où qu'on peut voir ensemble qu'au travers des rencontres puis des interactions que Jésus a eues avec les gens, au travers des miracles qu'il a opérés ou des discussions qu'il a eues avec soit ses disciples ou avec d'autres personnes, des personnes importantes de la société de l'époque ou des personnes qu'on disait moins importantes de la société de l'époque, où ce qu'on voit comment est-ce que Jésus a transformé des vies. Cet évangile qui nous montre d'un bout à l'autre à quel point Jésus est la bonne nouvelle qu'on a de besoin. Et je suis vraiment excité qu'on puisse continuer ça ce matin ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Kroc. Si je dis son nom comme ça, vous le connaissez probablement tous, mais vous ne savez pas de qui je parle, juste en disant son nom. Ray Kroc, c'est un entrepreneur, un homme d'affaires qui cherchait à faire beaucoup d'argent. Et alors qu'il vendait des machines à milkshake, un restaurant lui a commandé 8 machines à milkshake. C'était un record, il ne comprenait pas, comme il était sûr que c'était une erreur. Donc, il a décidé de se rendre en Californie pour rencontrer les frères McDonald's. Si vous avez vu le film Le Fondateur, en fait, toutes les informations que je vous donne ce matin, c'est tiré du film. Donc, je n'ai pas réussi à tout regarder ce qui tient de la réalité de la fiction. Je vous laisserai faire ça après, si vous voulez. Mais dans le film, on voit cet homme qui vraiment désire réussir dans la vie, désire faire beaucoup d'argent, désire trouver l'idée qui va faire de lui un homme riche, un homme qui a réussi, un homme qui a beaucoup d'importance. Il rencontre ces frères-là qui ont ouvert un restaurant de restauration rapide, qu'on connaît tous aujourd'hui, que nos enfants veulent désespérément aller aussi souvent qu'ils peuvent. Chez nous, c'est on va au restaurant ou chez McDonald's. C'est même pas un restaurant, le McDonald's. Mais ils voient cette idée-là, ils voient ce restaurant-là qui fonctionne bien, ils voient les gens qui sont en ligne, qui n'arrêtent pas de servir à manger rapidement. Et ils disent, moi, je veux embarquer dans cette idée-là. Donc, cet homme-là s'assied avec les deux frères McDonald's puis leur dit, moi, j'aimerais ça qu'on puisse franchiser ce restaurant-là puis qu'il y en ait partout aux États-Unis puis éventuellement partout dans le monde. Alors, avec des discussions avec les frères, les frères vont décider, OK, on va l'essayer, mais on a déjà essayé, ça n'avait pas fonctionné. Mais cette fois-ci, on veut contrôler, on va avoir du contrôle sur la qualité du produit sur comment les gens vont opérer les franchises. Alors, Kroc dit, pas de problème, il voit l'opportunité, il dit, moi je vais m'occuper de la franchisation, je vais ouvrir plein de nouveaux restaurants, puis vous pouvez vous occuper du contrôle de la qualité. Et ce qu'on voit dans le film, c'est qu'une grande chicane commence avec les gars parce que ça ne va pas assez vite, Kroc ne fait pas assez d'argent avec le contrat qu'il a signé, alors là, il cherche désespérément une façon de pouvoir faire de l'argent et de se débarrasser des deux gars qui ont finalement eu l'idée puis qui ont ouvert le premier magasin. Et moi, je ne suis pas un très bon entrepreneur et businessman, mais ce que je vois, c'est que ce gars-là, il a décidé d'acheter les terrains sur lesquels il mettait les restaurants pour pouvoir avoir du contrôle sur les frères McDonald's, puis éventuellement, juste dire, les gars, ils ne pouvaient plus rien faire, donc ils ont dû accepter de vendre le nom, de vendre McDonald's à une modique somme de, je pense, je ne me souviens pas, mais quelques millions de dollars, peut-être 2 millions de dollars. C'est pas beaucoup quand on considère l'empire qui est devenu McDonald's, n'est-ce pas? Mais quand on regarde toutes les manœuvres que l'homme fait tout au long du film, et je lisais un peu sur cet homme-là, puis on disait que c'était un entrepreneur impitoyable. Il disait, un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé. C'était sa manière de faire de la business. Et puis un jour, quand il signe le contrat de vente avec les frères, il va voir un des deux qui était à l'hôpital, puis il leur dit, la raison pourquoi moi je vais faire beaucoup d'argent puis que je vais réussir là où vous allez échouer, c'est parce que toi, quand tu es à terre, puis que tu as besoin d'aide pour te relever, moi, ça ne me dérange pas de t'écraser pour que tu restes à terre. Voilà l'idée de grandeur de cet homme. Voilà comment cet homme-là pouvait concevoir la grandeur, la réussite. La fin justifie les moyens. L'important, ce n'est pas comment j'y arrive, mais l'important, c'est que je suis à la tête d'une compagnie multimilliardaire qui a réussi, qui a fait son nom partout dans le monde. Et on sait comment McDonald's a réussi de façon judicieuse à continuer encore aujourd'hui à vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de hamburgers et de Big Mac. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on regarde cet homme-là et on dit « voici la grandeur, voici un grand homme ». Et honnêtement, quand j'ai fini de regarder le film, j'étais un petit peu comme laissé sans mots. Parce que je me disais, en quelque part, le gars, il a réussi. Mais coudonc, il a payé cher pour y arriver, puis il a fait mal à bien du monde en chemin pour pouvoir réussir. Est-ce que la fin justifie les moyens? Une des rencontres, une des discussions que Jésus a eues avec ses disciples, Jésus a enseigné la vraie grandeur à ses disciples. En jasant avec ses disciples, Jésus va enseigner à ses disciples comment on reconnaît la grandeur et qu'est-ce qui fait de toi une personne qui réussit. Et c'est une autre de ces rencontres-là qui va transformer éventuellement la vie de ceux qui vont entendre la discussion que Jésus a avec eux. Et comme on a pu voir dans les dernières semaines, de plus en plus, c'est clair que qu'est-ce que Jésus va faire. Quand on lit l'évangile de Marc, et que là on est rendu au chapitre 8, au chapitre 9, on voit de plus en plus Jésus qui annonce qu'il va mourir, Jésus qui annonce qu'il va souffrir. Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il va faire? Je m'en vais pour mourir et je vais ressusciter. Et à chaque fois, il y a un des disciples qui se lève et qui donne une remarque comme s'il n'avait pas écouté Jésus ou comme si c'était un petit bout d'un autre événement qui n'est pas connecté avec ce que Jésus vient de dire, comme qui démontre à quel point les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de leur dire. Mais de plus en plus pour nous, ceux qui lisons l'Évangile de Marc, on comprend que Jésus est puissant, que Jésus est grand, que Jésus est capable de calmer les tempêtes, que Jésus est capable de guérir les malades, que Jésus est capable de chasser des démons. Et Jésus est en train de démontrer sa puissance, sa grandeur, et tout ça va mener à une croix, à la mort. Et le texte qu'on va lire ce matin ensemble, c'est dans Marc chapitre 10. Et c'est en quelque sorte le chapitre central de l'Évangile, où ce que Jésus dit clairement, qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il le fait. Et comment il le fait. Donc Marc chapitre 10. On va lire à partir du verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux non-juifs, les Romains. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir et trois jours après, il ressuscitera. » Jésus sait exactement ce qui va lui arriver et là il dit à ses disciples, « Voici ce qui va m'arriver. » Et là, deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Allons dans la prière avant de regarder ce beau texte que nous venons de lire ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble ce matin à écouter ta parole, écouter ce que tu nous enseignes dans ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher notre cœur, que tu puisses, Seigneur, nous encourager, qu'on puisse être transformé par la parole que tu nous enseignes. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs à écouter, à être attentif à ce qu'on a besoin d'entendre ce matin. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, comme on peut voir dans cette histoire, Jésus est en route vers Jérusalem avec ses disciples. Et comme on voit encore des petits détails du passage au tout début, on voit qu'ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Et cette scène, c'est une scène très, très normale pour des disciples qui suivent leur maître, le maître qui se trouve au-devant, les disciples qui avancent et qui le suivent. Mais dans ce cas-ci, les disciples qui suivent Jésus sont dans la crainte, ils ont peur. Et on peut se demander de quoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur parce qu'ils s'en vont à Jérusalem? Ce que le texte nous montre ici et ce que les deux chapitres précédents nous ont montré, c'est que les disciples n'ont vraiment aucune idée de ce qui va vraiment arriver à Jésus. Donc, de quoi ont-ils peur? Les disciples n'ont pas peur parce que Jésus s'en va se faire crucifier, ils ne le comprennent même pas encore. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les disciples, justement, ne comprennent plus rien. Ils ont peur, ils sont émerveillés. Le texte nous dit ils sont dans la crainte. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec Jésus. C'est qui ce gars-là? On l'a vu à plusieurs reprises. Qui est celui-ci qui peut calmer la tempête et le vent? C'est qui ce gars-là qui va multiplier les pains? Les disciples reconnaissaient certainement que Jésus était puissant, que Jésus était grand, que Jésus était spécial. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'en se rendant à Jérusalem, l'atmosphère était très lourde avec Jésus et ses disciples. Et là, Jésus se tourne vers eux et il leur explique ce qui va lui arriver. Et certainement, on voit que ses disciples ne comprennent pas. Parce que ses disciples, on peut voir que ce qu'ils désiraient, ce qu'ils aimeraient vraiment, c'est que Jésus puisse les libérer. Il faut comprendre le contexte de l'époque où est-ce que le peuple juif était sous l'emprise de l'ennemi, les Romains. Et peut-être qu'en allant à Jérusalem, peut-être que là, Jésus, il va mettre en œuvre son œuvre de délivrance, puis il va nous libérer, puis il va devenir le roi des Juifs, le roi d'Israël, puis enfin, on ne sera plus sous l'emprise des ennemis. Mais c'est la troisième fois que Jésus va annoncer sa mort. Et Jésus sait exactement, et si vous allez voir au chapitre 8, au chapitre 9, les détails sont moins présents qu'ici pour la troisième fois. Jésus sait exactement ce qui va y arriver. On va me livrer aux non-juifs. On va me cracher dans la face, on va me ridiculiser. Je vais souffrir, je vais mourir. Mais après ma mort, je vais ressusciter. Jésus sait exactement qu'est-ce qui va lui arriver. Il s'en va en route vers Jérusalem pour accomplir sa mission. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a bien des choses qui nous sont arrivées dans la vie, dans le passé, que si on avait su avant que ça allait arriver, on aurait juste changé un petit peu de direction, n'est-ce pas? Si je savais quelle souffrance m'attendait, quelle épreuve m'attend, si on pouvait me le révéler, et c'est une bonne chose souvent qu'on ne sache pas ces choses-là, parce que Dieu nous parle au travers des épreuves, Dieu nous enseigne au travers de l'épreuve, Dieu nous fait du bien au travers de l'épreuve, mais si je savais d'avance ce qui m'attendait, probablement que je n'irais pas. Mais Jésus le savait. Et il continuait à avancer vers son obéissance. Il y a un an, en fait, j'ai couru mon premier marathon dans la ville de Québec, une distance de 42 km. Et puis, je vous le dis, je n'ai pas dit ça à beaucoup de monde, mais après m'être entraîné pendant 16 semaines pour le faire, je pars avec ma femme, on s'en va à Québec, et je me souviens de voir la ville de Québec sur l'autoroute en m'en venant, puis j'ai commencé à avoir des petits papillons dans le ventre. Je commençais à être créatif, mais en même temps, j'étais fébrile. Là, j'ai hâte, je vais courir. J'ai finalement réussi mon entraînement. Et puis, là, je vais chercher mon dossard, je vais chercher mon chandail, je vais chercher les choses. Puis ce jour-là, on pouvait voir le parcours. Moi, je vis à Gatineau. Il n'y a pas beaucoup de côtes à Gatineau. À Québec, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de plats à Québec. Et puis là, je vois le parcours, puis les dénivelés, puis là, je suis comme, oh boy, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, je commençais à stresser. C'est correct, c'est demain, on va le faire. Ce soir, on s'en va manger notre spaghetti en amoureux. On va se coucher de bonne heure, on prépare le linge. Et puis là, le matin, je me lève, 6 heures, je me lève, je commence à m'habiller, puis là, je suis dans la salle de bain, je m'habille, je me regarde dans le miroir, puis je capote. Puis là, je dis, j'y vais pas, je le fais pas. Puis je commençais à me dire dans ma tête, écoute, le but pourquoi je veux courir un marathon, c'était pour me mettre en forme. Ben c'est réussi, ça fait 16 semaines que je cours. J'ai dit, là, j'étais à Québec pendant 3 jours avec ma femme, on va aller visiter le Vieux-Québec, on va aller manger dans les restaurants, je suis pas obligé de courir le marathon. J'y ai vraiment passé. Parce que c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'entraînement du marathon, tu cours pas la distance au complet. Fait que j'avais jamais couru cette distance-là. Puis je l'avais jamais couru dans autant de côtes non plus. Tout ça était joué dans ma tête. Puis là, j'étais comme, OK, non, j'y arriverai pas. Puis finalement, ben j'ai juste commencé à me faire un petit toc mental devant le miroir, puis ça a bien été, j'étais bien content, puis je courais avec un ami en plus, fait qu'on n'était pas tout seul. Mais pour de vrai, je passais à ça, puis je me dis, loin de moi de comparer ma souffrance à celle de Jésus, vous comprenez? Parce que Jésus a souffert comme personne n'allait jamais souffrir. Mais Jésus savait ça. Mais quand je pensais à ça, je me voyais partir aller accomplir mon but que je m'étais fixé, et là, j'étais sur le point d'abandonner parce que je goûtais un petit peu à la douleur sans savoir exactement ce qui allait se passer. Mais Jésus savait exactement ce qui allait se passer. Et tout en sachant ce qui allait se passer, Jésus a dit, on s'en va à Jérusalem et voici ce qui va m'arriver. Si les disciples de Jésus avaient compris ce que Jésus leur dit, peut-être que les disciples auraient dit quelque chose comme, « Wow, Jésus, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Nous, on est avec toi depuis 3 ans, puis on te regarde, puis tu fais le bien autour de toi, tu n'as jamais rien fait de mal, tu n'as jamais péché, puis là, tu nous dis que les Romains vont te faire subir une mort atroce. » Ou quelque chose comme, s'ils comprenaient exactement ce que Jésus est en train de faire, « Wow, Jésus, tu vas faire ça pour moi. Merci, tu es grand. » Mais le texte ne nous donne aucune réponse, sauf les deux frères qui viennent voir Jésus, qui n'ont rien compris de ce que Jésus leur disait, mais qui ont plutôt vu comme une opportunité pour eux que Jésus, qui est si grand, qui est si puissant, qui allait devenir un roi, allait pouvoir les servir eux. Ils n'ont complètement rien compris de ce que Jésus leur disait. Et la demande des disciples, « Accorde-nous d'être assis un à ta gauche et un à ta droite. » Qu'est-ce que les disciples demandent à Jésus? C'est que quand tu vas être le roi dans ton royaume, on aimerait ça être les deux personnes les plus importantes avec toi. Fais de nous les deux plus grandes personnes avec toi. Et ça nous montre exactement ce que Jésus vient de dire. Ils n'ont pas compris. Mais ils leur font cette demande-là. Et ça peut sembler à première vue comme quelque chose d'assez noble, comme demande, Jésus, on t'aime tellement qu'on veut être avec toi. On veut toujours être avec toi. Et des fois, il y a ce genre de choses nobles qu'on fait pour Dieu ou pour les autres que on va demander des choses à Dieu ou on va faire le bien. Nous autres, moi, je suis une bonne personne qui fait du bien aux autres. Puis on fait des belles choses comme ça. Mais ce que Jésus veut enseigner à ses disciples dans ce passage et qu'il veut nous enseigner à nous, c'est que Jésus ne regarde pas juste qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on demande, mais il veut savoir pourquoi on le fait et pourquoi on le demande. C'est quoi la motivation derrière cette demande des disciples? Au même titre que quand je prie et que je demande des choses à Dieu, « Dieu, donne-moi cette chose-là, ou Dieu, enlève-moi cette souffrance, ou Dieu fait ci, puis c'est des belles choses qu'on peut demander à Dieu. » C'est pas qu'on peut pas déverser notre cœur à Dieu puis juste demander à Dieu ce que Dieu il sait ce qu'il y a dans notre cœur et c'est correct de lui demander ces choses-là. Mais parfois, il faut avouer que si on réfléchit, que notre motivation, la première, c'est pour être servi, c'est pour être satisfait, c'est pas par amour pour Dieu ou un dialogue relationnel que j'ai avec Dieu. C'est moi qui vois une opportunité d'utiliser Dieu pour me faire du bien. Et vous voyez que c'est très subtil la différence. C'est pour ça que le danger ici que Jésus va adresser, ce n'est pas de vouloir quelque chose, mais c'est pourquoi est-ce que tu le veux. Et c'est ce que Jésus va demander à ses disciples de réfléchir. Est-ce que tu fais toujours du bien autour de toi parce que tu aimes les autres et que tu veux leur faire du bien? Je suis sûr qu'il y a de ça dans nos motivations. Mais parfois, quand je fais du bien, quand je vais servir quelqu'un ou je vais prendre le téléphone pour demander à quelqu'un comment il va ou je vais donner quelque chose à quelqu'un, autant qu'il y a de la joie de faire ça, mais parfois, il y a une partie de moi qui est comme, hey, j'espère qu'il y a du monde qui m'ont vu. J'espère que cette personne-là va m'aimer plus. Et puis, on est là, puis on veut les choses pour nous. Et Jésus n'est pas en train de dire, bon, bien, arrêtez de le faire. Arrêtez de chercher à être grand. Arrêtez de chercher à satisfaire votre ambition. Mais posez-vous la question sur vos motifs et qu'est-ce que vous me demandez? Pourquoi vous voulez le faire? Quelle est la motivation des apôtres derrière leur demande? Est-ce que je fais les choses par amour pour Dieu et pour les autres? Ou est-ce que je les fais par amour pour moi et pour qu'est-ce que je veux? Et la réponse de Jésus, vraiment intéressante. Jésus, il n'est pas là pour leur dire, hey, vous êtes vraiment comme effrontés, vous n'avez pas écouté ce que je viens de vous dire. Ou... Jésus va poursuivre sur cette demande. Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? La réponse est oui, on peut. Et Jésus dit, effectivement, vous allez boire de la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Et puis là, il va leur dire, mais ce n'est pas moi qui décide qui va s'asseoir à ma gauche et à ma droite, ça appartient à Dieu. Mais les disciples disent, oui, on peut faire ça. Et en quelque sorte, les disciples disent, bien, si c'est le prix à payer pour avoir ce qu'on veut, on va souffrir un peu, là, on va souffrir. Oui, Jésus, on va te suivre, puis si tu dis que, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Jésus est en train de leur dire, quand il parle de la coupe que je vais boire et le baptême dont je vais être baptisé, c'est que Jésus est comme là en train de leur dire, je vais boire la coupe de la colère de Dieu. Je vais vivre les souffrances, je m'en vais à la croix, vivre la colère de Dieu à la place de l'humanité. C'est ce qu'il va nous dire un peu plus loin. Je vais payer le prix pour les péchés de l'humanité. Je vais subir la colère de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous associer à mes souffrances? Est-ce que vous pouvez subir la colère de Dieu avec moi? Jésus est en train de leur dire, je ne m'en vais pas dans un palais m'asseoir puis que tout le monde va venir me servir. Au contraire, mon palais va ressembler à une croix. Et si tu veux venir à ma gauche et à ma droite, tu vas venir souffrir avec moi. Tu veux être grand, tu veux pouvoir avoir quelque chose. Mais si tu me suis, si tu restes avec moi, c'est pas cette ambition de grandeur personnelle que tu vas avoir. Mais je veux que tu saches que tu vas souffrir pour moi, pour les autres. Tu ne seras pas la paix. Jésus savait que ses disciples, ce qu'il demandait, c'est d'être là, être servi. Mais il dit non, vous allez être avec moi en train de servir. Et ça ne va pas toujours aller comme vous voulez. Vous allez souffrir. Plus que vous pensez. Est-ce que c'est ça que vous voulez, être avec moi? Jésus venait de dire à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Jésus ne néglige pas cette option, cette souffrance que veut dire de vivre avec lui et de vivre pour lui, de s'abandonner soi-même pour vivre avec Dieu et pour les autres. Et là, les disciples de Jésus sont comme indignés que le texte nous dit. Et encore une fois, on se dit probablement que les disciples se disaient quelque chose comme « Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas demandé ça à Jésus? » Ou au contraire, ils sont fâchés après les deux autres, mais ils sont jaloux dans un sens. Parce que les disciples, entre eux, se pensaient toutes la même chose. Jésus s'en vient nous délivrer. Et il va régner, il va être comme les grands. C'est ça qu'on va voir, comme les grands de ce monde. Il va être un dirigeant et nous, on va diriger avec lui. Et on veut savoir qui va être le plus grand avec Jésus. Le cœur humain fonctionne de cette façon à vouloir la première place, à vouloir être reconnu. Les disciples voulaient du pouvoir, ils voulaient de la reconnaissance, ils voulaient avoir de la valeur. Mais on voit qu'ils vont faire cette demande-là sans considérer Jésus, sans considérer les autres. En quelque sorte, ils veulent utiliser ce qui est Jésus puis qu'est-ce qu'il a pour avoir ce qu'ils veulent. Et Jésus va dire à ses disciples, la demande que vous faites là n'est pas différente que la manière que tous les grands de ce monde dirigent. Jésus va dire, après avoir entendu... verset 42. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. » Ce n'est pas comme ça que je veux que vous soyez dirigé. Ce n'est pas ce que je veux que vous recherchiez. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voici la conception de la grandeur de Jésus. Notre conception de la grandeur va être de se rendre au top, puis de dire, si je suis le premier, si je suis au top et que je suis capable de diriger les autres, et même Jésus va dire ici, les grands de ce monde vont se rendre au top, ils vont dominer les autres, ils vont les tyranniser, ils vont profiter d'eux pour leur propre gloire. Jésus est en train de dénoncer que dans le cœur humain, quand on est au centre de nos désirs et qu'on se sert des autres ou de la situation pour avoir ce qu'on veut. Ça peut être dans nos rêves, justement, comme on voit ici, nos rêves de grandeur, de vouloir être le premier. Et pour me rendre là, pour réaliser tes buts, que ce soit d'être le patron de ton patron, ou que ce soit de monter d'une échelle ou deux salariales, ou que ce soit de réussir comme le premier de ta classe, ou que ce soit comme étant le meilleur de ton équipe de basketball, ou peu importe ton but. Comment vas-tu t'y rendre? Qui est-ce que je vais laisser en arrière? À qui est-ce que je vais faire du mal pour y arriver? À qui est-ce que je vais faire du bien? Mais ça va me servir pour y arriver. Jésus ne regarde pas notre comportement simplement, mais il regarde notre motivation. Pourquoi je fais les choses que je fais? Ça peut être dans nos relations. Une des choses que je réfléchis beaucoup, c'est comme Dieu me donne un rôle en tant que père d'élever mes enfants, de connaître ce qui est bien, de connaître ce qui est mal. J'ai cette responsabilité-là de les corriger quand ils font le mal. Je veux les encourager quand ils font le bien. Et parfois, en jouant ce rôle et en étant très honnête et en désirant le bien pour mes enfants, je me suis surpris à l'intérieur de moi à corriger mes enfants parce que j'avais peur de ce que les autres allaient penser s'ils voyaient mon enfant agir comme ça en public. Et alors qu'une simple bonne action que je dois faire, que je dois continuer à faire, mais Dieu me montrait mon cœur et me dit, « Dominique, est-ce que tu le fais par amour pour tes enfants ou tu le fais par amour pour toi de ce que les autres vont dire et penser de toi? » Ton enfant qui pleure dans la cour d'école pendant 10 minutes alors que tous les autres semblent s'amuser. Tu veux qu'il arrête de pleurer? Pourquoi? Parce que peut-être que les enseignants vont dire, hey, les parents là, de cet enfant-là, ils ne l'ont pas appris à ne pas pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'enseigne quelque chose à mon enfant puis ça lui prend du temps à le comprendre, mais là, je vais crier plus fort pour que là, il l'entende. Là, il va arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont penser si, puis qu'est-ce qu'ils vont dire si, puis est-ce que j'aime mon enfant à ce moment-là ou est-ce que je suis en train de me servir de mon enfant pour être aimé des autres? Et c'est ce que Jésus nous demande, de regarder nos motifs. Pas d'arrêter d'élever nos enfants parce qu'on ne sait pas comment le faire avec des motifs 100% purs. Pas d'arrêter de servir les autres parce que non, on va toujours lutter avec ça. Et c'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin, la bonne nouvelle qui est reliée à cette lutte. On va se servir de nos relations, de nos amis pour avoir justement cette valeur-là. Je parlais avec les adolescents, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils vont être amenés de m'entendre parler de ça. Mais dernièrement, on parlait des réseaux sociaux, puis d'Instagram, puis Facebook. Ben, en fait, vous savez, vos jeunes ne sont plus sur Facebook, mais bref, on parlait surtout d'Instagram. Puis là, ils m'expliquaient comment Instagram fonctionnait pour eux. Et puis, une des choses qu'il me disait, c'est que si une photo génère pas comme plus que tant de likes, un like, c'est comme tu pèses sur un cœur, puis là, ben on l'enlève de notre compte Instagram. Et ça, c'est pour la façon pour eux, puis ils ne sont pas tous seuls, ce n'est pas juste les ados qui sont comme ça, mais c'est la façon pour eux, pour les jeunes, de recevoir de la valeur et de l'importance de la part des autres. Et des fois, c'est comme, OK, cette photo-là, je la garde là, elle va rester longtemps dans mon Instagram parce qu'elle, elle a généré plusieurs likes, puis plusieurs... Et on fait ça dans nos relations, que ce soit virtuelles ou les uns avec les autres. Beaucoup plus facile de se tenir avec les gens qu'on apprécie ou qu'on sent qu'ils nous apprécient, n'est-ce pas? Que de servir la personne qui est toujours en train de nous critiquer. On en retire moins de gratitude d'être avec ces personnes-là. Jésus apporte un renversement de la grandeur. Il nous rappelle que la vie ne consiste pas à chercher l'amour et le bien de soi en premier, mais l'amour et le bien de Dieu et de son prochain. L'amour, la grandeur selon Jésus, consiste à servir son prochain. Et ce que Jésus va nous dire, c'est il ne fait pas juste nous reprendre, mais il dit « Voici comment je l'ai fait, voici comment je vais le faire. » Et Jésus dit « Voici, si tu veux être le premier, tu dois être l'esclave des autres, tu dois être le serviteur de ton prochain. Et voici comment moi je vais le faire. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le Fils de l'homme est venu. Jésus est venu. De où est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu de son trône, de son palais éternel, assis avec son Père. Il était tout puissant. Il était grand. Toute la création était à ses pieds. Jésus est venu de son trône et il est venu sur la terre, non pour être servi, alors qu'il avait le droit de demander cela. Mais Jésus ici se met en opposition, en contradiction avec les grands de ce monde et il dit « Moi, je ne suis pas venu prendre ma position de grand pour être servi, mais pour servir. Et je vais le faire en donnant ma vie pour vous, en payant la dette que vous devez à Dieu pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Je m'en vais tout perdre pour que vous puissiez avoir tout. » À la croix, Jésus est allé perdre ce qu'il avait pour qu'on puisse avoir ce qu'on avait perdu. Il est allé donner pour qu'on puisse recevoir. Jésus a perdu cette relation d'intimité qu'il avait avec son Père. Jésus a souffert. Jésus, il est mort, il a été ridiculisé. Il a dit à ses disciples, « Je m'en vais faire ça pour vous servir, sans rien m'attendre en retour. » Jésus a payé la dette. La dette que je devais payer pour mes péchés. Une dette que je ne pouvais jamais repayer. J'étais condamné à mort, séparé de Dieu pour toujours. Et Jésus savait la souffrance qu'il allait vivre. Il dit, « Moi, je vais y aller pour toi, Dominique. Moi, je vais y aller pour toi. » Et quand je réalise ce que Jésus a fait pour moi à la croix, quand je réalise qui je suis face à Jésus, je réalise que je ne suis pas meilleur que personne. À la croix, je suis comme les disciples qui veulent se servir de Jésus. Quand je regarde la croix, je regarde que je suis comme les disciples qui veulent se servir de Jésus. C'est moi le coupable, celui qui manque d'amour. Je suis tout ce que je n'aime pas que les autres me fassent. Mais Jésus est allé à la croix à ma place puis a payé ma dette pour que je sois libre et que je puisse avoir une relation avec lui. Je peux servir comme il m'a servi à cause de ce qu'il a fait pour moi. Tim Keller, dans son livre « Une royauté différente », nous dit que quand on a vraiment compris la croix, nous sommes propulsés dans le monde dans une joyeuse humilité. Nous n'avons plus besoin d'aider les autres, nous voulons les aider pour ressembler à celui qui a tant fait pour nous, pour lui faire plaisir. La question de savoir si les gens méritent mon service n'entre pas en ligne de compte, parce qu'on se dit, est-ce que je méritais la grâce de Jésus à la croix qui est venu me servir? Non. Seul l'Évangile nous donne une motivation suffisante qui ne pervertit pas les bénéfices de l'altruisme quand nous la mettons en pratique. Jésus a tellement fait pour moi par son service à la croix que je veux donner en retour pour que les autres puissent goûter à son amour. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est tout ce que j'ai besoin pour devenir un meilleur serviteur à tous les jours. C'est pas juste dans mon comportement, puis dans mes agissements, puis d'en faire plus, mais c'est dans me rappelant et en saisissant ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Je ne peux pas le faire si je ne réalise pas ou si je ne me rappelle pas à chaque jour à quel point j'ai été servi par le Créateur de l'univers, le Roi des rois, le Roi serviteur. À la croix, Jésus nous enseigne la vraie grandeur. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus me demande si je me place dans la position que Jésus, que je suis celui que Jésus a servi avec autant de gratuité, avec autant d'obéissance, sachant qu'il allait souffrir, il a dit, moi, je vais y aller pour toi, pour que tu puisses, toi, être en paix avec Dieu, pour que toi, tu puisses être en paix avec les autres, pour que toi, tu puisses chercher la réconciliation avec ton prochain. Parce que je sais qu'à cause du péché, tu n'es pas capable de faire ça par toi-même. Pour que toi, tu puisses tellement te sentir aimé par moi que tu n'as pas besoin de servir les autres pour être aimé, parce que tu es déjà aimé. Si je me place à cette position de celui qui a été servi par Dieu, qu'est-ce que ça fait de moi? Et qu'est-ce que Dieu me demande? Comment est-ce que Dieu me demande de servir comme il m'a servi? Parce que si on veut être grand, si on veut être premier, Dieu nous appelle à se servir les uns les autres. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour... Jésus, merci pour toutes ces belles rencontres qu'on peut témoigner juste en lisant ta parole que tu as fait quand tu es venu sur cette terre. On reconnaît, Jésus, que tu es celui qui a obéi jusqu'à la fin. Tu es allé jusqu'à la croix. Tu nous as servi. Et Seigneur, aujourd'hui, ce qu'on a de besoin quand on considère cet appel à être des serviteurs, ce qu'on réalise, c'est qu'on a besoin de pas plus de connaissance, mais plus d'obéissance. On sait que tu nous demandes de servir notre prochain. On sait que tu nous demandes de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. On sait que tu nous demandes d'aimer les gens qui sont moins aimables. On sait ces choses-là, Seigneur Jésus. Mais ce qu'on a besoin, c'est de l'obéissance. Et cette obéissance, Seigneur, vient quand on réalise à quel point nous étions coupables et que tu as, par obéissance, toi-même accepté d'aller jusqu'à la mort sur la croix. Merci, Jésus. On veut tellement te rendre la gloire pour ça. Et fais de nous une église qui s'aime et qui se sert les uns les autres comme tu nous as aimés, comme tu nous as servis. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.